J'ai 9 ans. J'ai un air sérieux sur les photos. Ma poupée s'appelle Marie. Et mes parents sont gentils avec moi.
J'ai 9 ans. J'ai les yeux noirs. Et j'ai les cheveux bruns. On m'a coupé les deux jambes au niveau des hanches.
J'ai disparu le 7 février 1906 à 18h30. On m'a retrouvé quelques heures plus tard.
J'ai 9 ans pour toujours.
Je suis un cadavre sans jambes. Un corps encore chaud quand on me découvre. Une semaine après, j'étais déjà sous terre quand un homme a trouvé mes deux jambes.
Ils ont dit que celui qui m'a découpé connaissait son affaire, qu'il était médecin ou peut-être boucher. Ils ont dit des tas de choses. Ils ont dit des tas de choses, mais personne n'a jamais su. Il m'a forcé à boire de l'alcool. Il a enfoncé son sexe dans mon vagin.
J'ai bu tant et tant d'alcool que je suis morte, étouffée dans mon vomi. Je suis ficelée comme un gigot et je n'ai plus de jambes. Nous ne sommes que deux à savoir qui il est. Bonsoir. Nous sommes les jeunes Vanquelques.
Fille, je savais que j'allais être à la bourre, mais j'ai quand même traîné sous la douche. J'ai frotté fort et tout rasé, jambes, sexe, aisselle. J'ai encore traîné parce que ça n'allait pas. Et comme je ne voulais pas m'exploser la tête sur le miroir, j'ai encore pris mon temps. Je me suis lavé les dents. Brossé et séché les cheveux. Je les ai coiffés et appliqué de la mousse ultra boucle. Puis, crème hydratante, fond de teint, fard à paupières, eyeliner, crayon noir, mascara, rouge à lèvres, parfum sur le cou et les poignets. Geste précis, habitué. Je me sentais déjà un peu mieux. Mais ça traînait. Et il y avait ce bouton sur mon menton qui ne disparaissait toujours pas. J'ai failli les appeler pour décommander. Je me suis changée 3 fois et j'ai finalement opté pour cette robe à fleurs, celle que j'hésite toujours à mettre. Ça détournerait un peu l'attention de mon immonde pustule. J'étais enfin prête et puis ça m'a frappée ce reflet. Ce faux fabriqué, ce que les gens voient, et toutes ces couches sur moi, et tout ce que j'en ôte, ma grâce, mes poils, mes odeurs, ma réalité. J'ai rejoint Elio et Laura au bar. On voulait s'en jeter quelques-uns avant d'aller danser. Quand je me suis assise, le sifflement d'Elio m'a en même temps flattée et tendue. Laura eut un petit rictus, et quand elle m'a dit que je devais être sacrément chien pour me fringuer comme ça, je n'ai pas su répondre, alors j'ai ri. Un rire bref, bancal. Je sentais que je l'agaçais. Elle avait pris du poids ces derniers temps et ça la mettait sur les nerfs. On arrivait en boîte un peu après minuit. Il y avait déjà beaucoup de monde et j'étais bourrée. On s'est enfilé des shooters. Mais la musique était encore trop forte. J'ai regardé les gens. Nous étions tous entassés à la recherche de quelque chose. J'ai dansé avec un type. Je voyais mal son visage. Il m'a offert un verre, a dit « Je m'appelle Marc ». Il n'arrêtait pas de me parler et j'essayais de faire taire la voix dans ma tête qui me répétait que ça aurait pu être une autre. Que rien en moi ne l'intéressait à part mon cul. Je préférais penser qu'il m'avait choisi. Ses yeux s'attardaient plus sur mes seins et mes jambes que sur mon menton. J'étais soulagée. Je n'avais pas très envie qu'il me saute, mais c'était trop tard. Je me sentais redevable, maintenant que nos corps avaient été si proches. Et puis j'avais accepté qu'il me paye à boire. Et puis j'avais cette robe. Je saisis la bière qu'il me tend, et il m'embrasse avant que j'aie le temps de boire. Il me palpe les seins, trop fort. Ses doigts frottent ma chatte à travers mon string. Son studio est petit, impersonnel, à l'image de sa queue que je commence à branler. On se déshabille complètement, j'ai envie qu'on en finisse. Il est pressé, brusque. Il enfile une capote, sortie du tiroir de sa table de chevet. Geste précis, habitué, mais ça traîne quand même. Je m'allonge sur le canapé, écarte les cuisses. Il épanche en moi son haleine épaisse et envahissante. Il me touche encore un peu la chatte, qui doit être suffisamment humide à son goût. Il me pénètre. Je ne ressens pas grand-chose, même si c'est plutôt désagréable. Je pousse quelques gémissements, bref, bancal. Un grognement rauque sort de sa gorge. C'est fini. J'allume une cigarette. D'un coup j'ai chaud, mais la rue est trop déserte pour que j'enlève mon pull. Marc n'a pas essayé de me retenir quand je lui ai dit que je devais rentrer. On a sûrement épuisé tout ce qui nous reliait. Je m'attarde devant une devanture de magasin pour me recoiffer. Dans la nuit, mon bouton ne ressort pas. Je continue ma route, affronte les panneaux publicitaires, exhibant des bombasses parfaites qui semblent me narguer. Je suis à 5 minutes de chez moi quand je tombe sur Pierre. Il veut qu'on aille boire un verre, chez lui. Je ne le connais pas très bien. Il est assez maigre et pas très beau. Eux se foutent de leur physique. Je me sers un verre d'eau dans sa cuisine. J'ai la bouche sèche. Je tremble un peu. Quand il colle sa bite contre mon cul, je pense aux couches de tissu qui nous séparent. J'en compte 4. Son caleçon, son jean, ma robe, mon string. Ça me brûle quand même, comme les autres fois, les autres brûlures. Ce ne sont pourtant pas eux qui me forcent à me maquiller, à me coiffer, à m'habiller comme ça. Ce ne sont pas eux qui me forcent à les baiser. Je me demande s'il a vu mon bouton, s'il sent l'odeur de sexe sur ma peau. Je me demande comment je réagirais s'il n'était pas attiré par moi, si je saurais quoi faire, quoi dire. Et lui, il ne m'aurait pas invité chez lui de toute manière. Je pense aux personnes que je côtoie, à toutes ces heures passées en boîte et devant le miroir. Je ne suis qu'un corps. Un équilibre admis, bien huilé, qui arrange tout le monde. S'habituer assez jusqu'à ce que ça devienne normal. On est tous trop lâches pour penser autre chose. Tout le monde devrait payer d'être aussi con, de se jeter sur la facilité comme on se jette les uns sur les autres, alors que nos corps ne sont même pas affamés. Juste des égos hypertrophiés, qui se regardent eux-mêmes baiser. Pierre se presse contre moi. Je ne pleure pas. Sous mes yeux s'étale sa vaisselle et je passe en revue tous les objets avec lesquels je pourrais lui faire mal. Cette vaisselle que je pourrais briser pour rendre les ustensiles tranchants et meurtriers. Il se colle un peu plus. J'ai la tête qui tourne.
Merci. Donc le prochain texte s'appelle « Onde de choc ». Pendant que les passagers me tendent leurs billets pour que je les scanne, répétant machinalement les mêmes phrases à chacun, j'ai l'esprit ailleurs, je pense à mon frère. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis samedi, depuis que ma belle-sœur m'a téléphoné pour me prévenir. Je vérifie qu'ils sont tous montés et je grimpe dans le car à mon tour. Je m'installe à ma place, démarre, prends le micro pour leur donner les consignes d'usage, c'est parti. Il est 9h du matin. On devrait arriver vers 20h s'il n'y a pas trop de monde sur la route. J'aime bien ce trajet. Parce qu'en fin d'après-midi, il y a une grande étape en montagne avec beaucoup de virages et une vue à couper le souffle. Pour l'instant, il bruine, mais le temps qu'on arrive aux montagnes, si Internet n'a pas raconté trop de conneries, il devrait faire beau. Je n'arrive pas à chasser Jean-Paul de mon crâne. Qu'est-ce qu'il lui a appris à ce con? Je me creuse la tête pour savoir s'il y a eu des signes avant-coureurs. Je repense à la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, la dernière fois que je l'ai vu. Mais non, tout avait l'air d'aller enfin, ni plus ni moins que d'habitude. Je m'engage sur la voie réservée au télépéage, ça bip, la barrière se lève, et nous voilà sur l'autoroute. Vitesse de croisière 100 km/h. Vendredi soir, il a dit bonne nuit à ses gosses, mes nièces, et a annoncé à sa femme qu'il sortait faire un tour. Il n'a pas quitté le garage. Il a découpé le tuyau d'arrosage, il l'a relié au pot d'échappement avec du chatterton, et il a introduit l'autre extrémité du tuyau dans l'habitacle de la voiture. Et puis il s'est installé, il a démarré, et il a attendu tranquillement la mort. Sur l'autoroute, ça roule bien. Pas beaucoup de circulation. Comme prévu, la bruine a vite laissé place au soleil. Il est encore pâle mais prometteur. Je reçois un texto de ma belle-sœur. Je me sens hyper coupable, écrit-elle. C'est affreux, je chiale sans m'arrêter depuis 2 jours. Les enfants sont chez ma mère, elle aussi est effondrée. Je suis tellement, tellement désolé. Mais juste après un deuxième, j'ai quelque chose à te dire, je peux t'appeler? Je réponds que je suis en train de conduire. J'en reçois un troisième qui dit: je sais pas comment te l'annoncer. J'ai peur qu'il ait fait ça à cause de moi. Il y a 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai revu plusieurs fois. Ça n'avait rien de sérieux, je te jure. Envie de changer d'air, je sais pas. Peut-être que Jean-Paul s'en est aperçu, peut-être qu'il l'a pas supporté. Je me torture avec ça depuis samedi. J'éteins mon téléphone. Je ne suis pas son confesseur. Si ce qu'elle suppose est vrai, je ne peux pas lui pardonner. Et si elle se gourre, si ce qu'a fait Jean-Paul n'a aucun rapport avec la saloperie de sa femme, alors je ne veux pas en savoir plus, ce sont ses oignons, pas les miens. Ces histoires de cul ne m'intéressent pas. Le suicide de mon frère tourne dans ma tête tout au long des kilomètres. Tourne, tourne et me rend dingue. Une espèce de folie froide qui me fige et me pétrifie. À midi, à la pause déjeuner, je regarde les passagers s'emparer de leurs plateaux et les remplir de bouffe. On dirait que ça fait 3 jours qu'ils n'ont rien avalé. Ils se précipitent sur les entrées et les plats de résistance, comme s'ils avaient décidé de s'empiffrer un maximum pendant les 3 quarts d'heure qui leur sont alloués. Pour ma part, j'ai pas faim. Plutôt une barre au ventre, et l'angoisse qui monte, les sueurs froides. J'ai l'impression de subir un état de choc. J'ai soif. J'achète un flash de rhum à la boutique Total et vais au chiac te déballer. Je lampe une gorgée. Un énorme frisson me secoue. Je me demande si je vais pas vomir, mais ça passe. Et j'enchaîne sur une deuxième. La moitié du flash a déjà disparu dans mon ventre. Ça va un peu mieux. Je n'ai pas fini de boire cette première bouteille que je sais déjà que les autres vont suivre. C'est la fin de 6 années d'abstinence. J'achète une bouteille de whisky premier prix, 1,5 litre de coca et un paquet de chewing-gum. Je fais mon petit mélange aux chiottes. La moitié du coca disparaît dans les toilettes. Je la remplace par le whisky. Il en reste un peu au fond de la bouteille. Je le bois sans en laisser une goutte et me fourre dans la bouche 3 ou 4 tablettes de menthe poivrée. C'est dégueulasse, mais au moins les passagers ne me grilleront pas. Nous repartons. Mon magnum de whisky coca à portée de main. Je suis déjà ivre. Ça va être gai dans les montagnes. Ce qui a sauvé la vie de mon frère, c'est qu'il n'avait pas verrouillé les portières. C'est comme ça que ma belle-sœur a pu le sortir de là et le traîner hors du garage, où elle était descendue voir ce qu'il fabriquait, puisqu'elle n'avait pas vu partir la voiture. Le SAMU l'a placé en réanimation, mais pour l'instant, il n'arrive pas à le faire sortir du coma. Pronostic réservé, dit dans ces cas-là. Et ce matin, en dernière nouvelle, ils étaient pessimistes. J'hésite à rallumer le téléphone. J'aimerais bien avoir des infos, mais d'un autre côté, je n'ai pas le courage de subir les lamentations de ma belle-sœur, ni celles de mon ex-femme immanquablement prévenue. Je préfère m'enfiler une bonne rasade de whisky coca. Ça me secoue pas mal. Ça remet les idées en place. On arrive aux premières montées. Il fait grand soleil. C'est toujours ça de pris dans cette journée de merde. Je m'en lasse pas de la vallée qui s'étale en contrebas. Les arbres, le village minuscule, la lumière incroyable. Derrière aussi, ils en profitent. Je les entends prendre des photos. Encore un gorgeon pour fêter ça. Tant que j'allume pas le téléphone, c'est comme si mon frangin était suspendu entre la vie et la mort. Comme si rien n'était décidé. Tant que j'allume pas le téléphone, c'est comme si j'empêchais de mourir. Faut faire gaffe aux idées noires. Faut faire gaffe à pas se laisser contaminer. Je crois que c'est le moment de revoir un coup et d'appuyer sur le champignon. Merci.
Victime. C'était déjà la 3e relance, et je ne pouvais pas plus payer que les autres fois. S'ajoutaient 2 loyers en retard, et les factures d'EDF. Mon bras me faisait encore mal. Le médecin m'avait dit qu'au bout d'une semaine, les douleurs se seraient tues, mais elles persistaient. Je n'osais pas retourner à l'hôpital. Peut-être allait-il finir par m'oublier. Après tout, il n'avait pas autre chose à foutre que réclamer du fric. L'hospitalisation m'avait foutu dans la merde. Sale pocharde. Sale fierté à 2 balles. Avoir insulté l'autre connard parce que j'étais trop bourrée. Et lui trop con. Lui qui me tord le bras, qui ricane devant ses copains. T'as de la chance, ils m'ont dit. Avant de me laisser plier en 2 sur le trottoir. Un gars qui passait m'a aidé à me relever. Il y a des gens pour qui c'est normal de s'arrêter, d'aider son prochain. J'étais comme ça aussi, avant que je me fasse braquer mes thunes par un clodo. Maintenant je trace. Il m'a accompagnée jusqu'aux urgences. Il insistait pour que je porte plainte. J'ai hoché la tête sans vraiment l'écouter. Là-bas, ils ne se sont pas trop affolés. Élongation ligamentaire au poignet et un gros cocard. Rien de plus. C'était cette attente. Horrible. Le médecin n'a pas voulu me laisser partir parce que j'avais presque 3 grammes dans le sang. Faut attendre, il a dit. Il a ajouté « J'en ai marre de tous ces alcoolos. » J'avais vraiment envie de lui hurler dessus, ou de fondre en larmes. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer, ce qu'on allait me demander, payer maintenant, plus tard. En plus, il m'avait fait une radio, et je me doutais bien que ça coûtait cher, alors je ne l'ai pas ramené. Ils m'ont laissé dans une chambre. Je n'avais pas envie de rester là. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai envisagé une fugue. Finalement, je suis restée un moment à l'accueil et la fille n'a rien osé me dire. La radio était allumée et c'est là que j'ai entendu qu'il y avait eu des explosions. Dans le 11e principalement. Le son n'était pas assez fort. J'entendais par bribes. Je regardais la fille, mais elle ne bougeait pas, n'a pas monté le volume. Je suis retournée dans la chambre, mais n'avais plus sommeil. J'ai sorti mon téléphone, me suis allongée dos à la porte. Je sais que c'est interdit dans les hôpitaux à cause des machines et tout le bordel. Je n'arrivais pas à choper le wifi. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à ce qui s'était passé. Ou ce qui était en train de se passer, là, quelque part, maintenant où il y a une heure, à seulement quelques centaines de kilomètres. Ils m'ont laissé partir 2 heures après. Il ne faisait pas encore jour. J'ai mis plus d'1 heure pour rentrer chez moi. J'avais mal aux pieds. Et maintenant que j'avais des souliers, la douleur au poignet se faisait plus pesante. Je me suis fait un café en arrivant. Et j'ai enfin pu voir ce qui se passait. Plus de 100 morts. Je savais que Marco était au concert. Je lui ai envoyé un message. Pas de réponse avant le lendemain. Il avait été blessé à la jambe, mais était bien vivant. Il ne voulait pas en parler. Je n'osais plus sortir. Scotché à la télé. J'ai encore beaucoup bu cette semaine-là, et pris des tranquillisants, et des somnifères. Je me faisais de gros mélanges cacheton-vin rouge, qui m'aidaient à effacer la plupart des heures. J'étais terrorisée. J'avais aussi de la peine pour tous ces gens, de la haine désespérée, empreinte d'un dégoût aigre qui me remplissait la bouche et le ventre. Pour tout le monde, les morts, les terroristes, ceux qu'on assimilait aux terroristes, les gens comme moi. J'avais mal au bras, je ne faisais plus aucune démarche pour le boulot, j'ai raté mon rendez-vous Pôle emploi. Je n'étais pas sortie depuis 2 semaines, à part pour faire des courses au bout de la rue. Je regardais les gens en coin, tout le monde paraissait louche. Surtout ceux avec leur air de monsieur tout le monde. Leur air de je ne suis pas perturbée. Je ne répondais plus au téléphone. Et ne comprenais pas tous ces gens à la télé qui disaient « Il faut faire comme avant ». C'était enfouir le problème, le nier. Comment ils faisaient les autres. Mon chômage s'arrêtait le mois d'après. Je n'avais plus une thune. Internet n'était pas encore coupé, mais ça n'allait pas tarder. J'avais presque plus de quoi m'acheter du pinard. Tout le monde avait l'air de vouloir oublier. Je leur ai écrit. Parce que j'avais des problèmes, des gros problèmes, et que je n'allais pas m'en sortir. J'ai regardé des tas de documentaires sur les terroristes. Je repassais en boucle les vidéos des tueries. D'autres vidéos, d'autres tueries, dans d'autres pays. Je me nourrissais de violence. C'était de la survie, pure et simple. C'est sûrement parce que j'étais plus obnubilée que les autres que l'idée m'est venue et m'a paru normale. Parce que, même si je n'étais pas réellement là-bas le soir du drame, j'étais victime. L'État me devait quelque chose. J'étais anéantie et c'était leur faute. Je me suis adressée au FGTI, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions. Je leur ai demandé un dédommagement de 8 000 euros. Après tout, ce n'était pas vraiment exagéré. Mon cerveau créait des tueries tous les soirs. J'étais en pleine dépression. J'avais des flashbacks à longueur de temps. Et le fait que j'ai été ou non réellement présente sur les lieux ne me paraissait pas si important. Comment on définit une victime exactement? Et encore une fois, j'avais besoin d'argent. Je voyais ma vie sur le point de dégringoler, les dettes s'accumuler. Je me voyais déjà expulsée de chez moi. Et les autres connards de l'hosto, qui me réclament leur putain de fric à cause de trois tocards misogynes et violents. Que ce soit pour une chose ou pour une autre, j'ai des victimes. Quelle est la différence? Même, je peux vous raconter avec précision comment ça s'est passé. Et comment ils ont tué tout le monde. Et comment ils se sont fait exploser. Et comment j'ai réussi à m'en sortir de justesse avec mon bras amoché et mon cocard. Après ça, c'est dur de vivre. C'est même impossible. Je mérite qu'on s'occupe de moi. Je mérite une pension, une compensation et de quoi m'assurer un suivi psychologique. Ils m'ont bousillé. J'ai dit que j'y étais. Que j'étais à Paris au concert. J'ai menti, mais ce n'est pas ça l'important. Ils ne m'ont pas répondu. Et je les ai encore plus saillis. Je méritais certainement le double de ce que je leur demandais. Je n'en pouvais plus d'attendre. De ne pas être considérée à ma juste valeur de traumatisée. Je les ai relancés une première fois. Puis quatre fois par la suite. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une enquête sur moi. Pourquoi ils ont eu, pour reprendre leur terme, la puce à l'oreille. Après tout, on était plus de 2000 à avoir fait une demande de dédommagement. Au procès, ils n'ont pas compris ce que je leur disais. Ils ont dit que j'étais amorale. Ils m'ont foutu 6 mois avec sursis. M'ont dit que je devrais avoir honte. Peut-être que je n'aurais pas dû mentir là-dessus, mais je ne vois pas ce que ça peut leur faire, aux vraies victimes, comme ils les appellent. C'est comme si j'avais vraiment été là-bas. Maintenant, à cause d'eux, je vais me retrouver à la rue. Mon poignet me fait toujours mal. Je n'ai plus rien à perdre. Merci.
Merci, merci. Un dernier texte s'appelle Paf le train. Pour l'instant, la bonne ambiance. Dans mon bled de merde, y a rien à faire à part regarder passer les trains. Ce qui tombe bien parce que nous sommes cons et crasseux comme des vaches, le cul plein de merde et qui attire les mouches. Regarder les trains, j'aime bien ça. J'embarque un sac en plastique, avec dedans une demi-douzaine de mitzis. Je prends de quoi fumer quelques spliffs et je m'installe. J'ai 26 ans et je vis chez mes parents. Avec le RSA, je risque pas de me prendre un appart. Je suis bien parti pour y rester jusqu'à la fin de mes jours, dans leur pavillon de merde, à les écouter ressasser les mêmes éternelles conneries sur l'insécurité, le chômage, les politiques qui sont des menteurs, la même crasse que celle que déverse la télé allumée non-stop mais mal répétée. Ils picolent, touchent le chômage, disent des conneries et s'engueulent. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et pendant ce temps, la télé continue de blablater, sans jamais s'arrêter. Un poste dans le salon et un dans la chambre des parents. Un autre dans la mienne, et un dernier dans celle de ma sœur. La ville est pourtant pas si loin, 20 minutes de route, mais on n'y va pas. Personne n'a de bagnole, et les vieux ne nous prêtent pas les leurs. On va pas y aller en bus, c'est trop relou. Alors la semaine, on se fait chier chacun de son côté, et le week-end, on traîne en bande. On se fait chier pareil, mais à plusieurs le temps passe moins lentement. On se met des murges, chez les uns, chez les autres. On roule des kilos de joints. On joue à la console, jusqu'à ce que les vieux en aient marre de nos tronches et nous virent. Et alors on va dans une autre baraque. Ou bien si c'est le début du mois, on va claquer du fric en boîte. Je sors avec Nathalie. Je suis pas le seul. Elle se tape d'autres gars de la bande, c'est comme ça. Ça me ronge les tripes. C'est pour ça que presque tous les soirs, je grimpe en haut du talus, ça me fait du bien. Pour quelle raison, j'en sais foutre rien. Le talus domine la voie ferrée d'à peu près 2 mètres et descend doucement vers elle. Avant, elle était masquée par une rangée d'arbres, mais ils se sont fait défoncer par la dernière tempête et il n'y a pas de fric pour les remplacer. Et puis de toute façon, tout le monde s'en fout. Alors j'ai une vue imprenable. La voie ferrée fait un long virage, puis repart sur une ligne droite. Mon poste d'observation se situe juste à la sortie du virage, là où les trains ralentissent. Je mate, en picolant et en fumant. Le goût métallique de la 8-6, le shit qui en rajoute une couche, ça m'éteint la tronche. Des fois, j'arrive à apercevoir le visage du conducteur ou de quelques passagers. C'est comme des images subliminales. Des fois, il y a des meufs bonnes. Ça me rappelle que le monde est beaucoup plus grand que le peu que j'en vois. J'imagine leur vie. Je m'imagine à leur place. Mais à leur place, j'y serai jamais. Moi, tout ce que je sais faire, c'est froisser des canettes de 8-6 et les lancer en direction du grillage. Je connais les horaires par cœur à force. 18h56, le TGV pour Paris. 19h32, dans l'autre sens, le train de marchandises. 19h41, dans le même sens que le train de marchandises, l'intercité pour Nice. Entre 20h et 21h, 3 TER, 2 dans le sens Paris et 1 dans le sens Nice, souvent à la bourre. Et puis, encore un train de marchandises, 2 intercités, un TGV. À ce moment-là, il est presque minuit. Le trafic ralentit énormément. J'ai tout bu, tout fumé. Je shoote dans la dernière canette, elle va rouler en bas du talus et s'échoue contre le grillage qui protège la voie ferrée, rejoint toutes les autres. En bas, à force, c'est un vrai cimetière, un dépotoir que personne ne nettoie. Et pourquoi est-ce que quelqu'un nettoierait? Il vient que moi ici. Quelquefois, je prends des bouteilles de Jeanlin pour changer. J'en prends 3, de l'ambré, ça casse moins la tête, mais c'est le meilleur goût. Quand elles sont terminées, au lieu de les laisser rouler jusqu'au grillage, je les lance de toutes mes forces. Souvent, j'arrive à passer par-dessus, alors elles explosent sur les rails. Et ça me fait plaisir. Même si moi, je reste le cul dans l'herbe et que j'irai nulle part. Dans la journée, il n'y a rien de mieux à foutre que traîner dans la maison, m'engueuler avec mon père, avec ma mère, avec les deux, ou bien les regarder s'engueuler entre eux. Bouffer de la merde. Regarder de la merde à la télé. Passer au bistrot, raconter de la merde et boire quelques bières. Si c'est le jour du loto, je remplirai une grille. Je perdrai. Si Nathalie est bien lunée, on baisera, sinon on se prendra la tête. Des fois, j'ai l'impression que dans cette vie, il n'y a que ça à faire, se prendre la tête. Tu voudrais faire quoi d'autre? On est tous entassés comme des animaux dans une cage trop petite. Alors s'embrouiller pour un rien, ne pas se faire confiance, chercher la petite bête, se regarder de travers, guetter les faux pas, c'est tout ce qui nous reste. On n'a rien d'autre. Si on s'arrête, on coule. J'ai toujours habité ce pavillon. Au début, mes parents avaient encore un boulot et j'allais à l'école. La baraque était neuve. L'ambiance était bonne, il y avait un avenir. Je me souviens que certaines nuits, j'entendais passer les trains. Et déjà à l'époque, j'aimais bien ça, je trouvais ça mystérieux et excitant. Et puis mon père s'est fait virer parce qu'il s'est battu avec un collègue à lui. Et pas longtemps après, la boîte qui employait ma mère a coulé. Les choses se sont gâtées en pente douce. Quand ma mère a été enceinte de ma sœur, la pente est devenue plus raide. Quand Nathalie me traite de merde et de branleur, d'incapable, qui fera jamais rien de sa vie à part toucher le RSA comme un parasite et attendre que ses deux parents crèvent pour pouvoir hériter d'un pavillon pourri, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je lui claque le beignet, mais alors quelque chose de bien. Elle a la moitié de la gueule toute rouge, le tour de l'œil qui enfle, et elle saigne de la lèvre. Je m'excuse pas, Au lieu de m'excuser, je lui réponds qu'au magasin de chaussures où elle fait la vendeuse, elle aurait l'air d'une sacrée cassos avec son œil au bord noir. Et là-dessus, vu que la cognée m'a fait un bien fou, j'en mets une autre baffe et je me casse. Sur l'instant, elle est trop sonnée pour réagir. Mais à peine je suis sorti de son immeuble qu'elle apparaît à la fenêtre et m'insulte. Je la regarde péter un câble et me fout de sa gueule. Et dans un moment d'hystérie totale, elle arrache à sa prise le radio-réveil qu'elle lance vers moi de toutes ses forces. Il explose sur le trottoir, je suis mort de rire. La traite de cinglés, ils font enfin le camp. Elle m'envoie une bordée de SMS d'injures, tous plus délirants les uns que les autres, me promet les pires représailles, elle a complètement craqué. Le samedi suivant, quand j'arrive chez Thierry, elle est pas là et il y a un froid. Je suis clairement pas le bienvenu, mais j'ai pas envie de faire profil bas, alors le ton monte et je m'embrouille avec Thierry et Pascal. On finit par se battre. À deux contre un, ils ont le dessus et je me fais dérouiller. Je rentre chez moi. Tout le monde dort. Je vais au garage récupérer le fusil de mon père. À une époque, il s'est pris pour un chasseur. Une lubie parmi d'autres. Ça ne l'a pas tenu longtemps. En tout cas, le fusil marche encore. Et avec lui, j'embarque une boîte même pas entamée de 50 cartouches. Tant que j'y suis, je repasse au salon. Faucher une bouteille de GNB et direction mon talus. À cette heure-là, il n'y a aucun train, mais je m'en fous. J'ai le temps. Jusqu'à l'aube, je tease. À 6h30, le premier TER arrive, direction Paris. J'ai Paul et je le rate, mais ça n'a aucune importance. J'ai toute la journée devant moi. Merci. C'était les 20 ans de calme.